notre étude. Ce soir, ce que j'avais pensé, on avait parlé de Joseph avec par rapport à Joseph les dernières fois, les 3 dernières fois. Là, maintenant, on va parler de Jacob ce soir. Puis, c'est en relation avec, des fois, on s'inquiète pour des choses. Quand on pense au plan de Dieu dans notre vie, Dieu, il va faire en sorte que ça va fonctionner. Il y a un plan pour chacune de nos vies. Puis, il veut atteindre un but. Mais on va penser à ce soir comment qu'on se comporte par rapport au plan de Dieu. Puis des fois, on peut se susciter des inquiétudes, des problèmes, juste parce qu'on ne se confie pas par la foi dans le Seigneur. Fait que j'ai appelé ça les inquiétudes de Jacob. Mais on va aller dans Philippiens pour notre lecture. On va aller dans Philippiens, puis on va l'illustrer avec la situation à Jacob. Dans Philippiens au chapitre 4, et au verset 6 à 7, des versets qui sont bien connus. Il nous dit ici, dans Philippiens 4, au verset 6 et 7, il dit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, l'inquiétude nous empêche de garder nos pensées en Jésus-Christ. Donc, si on s'inquiète, on n'aura pas l'opportunité de garder nos pensées, à rester à penser au Seigneur Jésus-Christ. On va aller aussi dans Éphésiens 2. Éphésiens 2 au verset 10. On sait qu'on cite souvent, on connaît bien les Éphésiens 2, 8, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient point de vous, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et on voit le verset 10 est aussi très important. Si ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, on est sauvé pour des bonnes œuvres. Donc, dans le chapitre 2 d'Éphésiens, verset 10, il dit: Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Puis, c'est ça qu'on veut regarder ce soir ensemble. À travers la vie de Jacob, comment on n'a pas besoin de s'inquiéter, mais de se soumettre entièrement à Dieu, puis d'être confiant. Puis quand on est confiant, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on aura le loisir de pouvoir garder nos pensées envers le Seigneur Jésus-Christ, puis de le voir agir dans nos vies. Vous savez, quand on regarde en arrière, puis qu'on l'a laissé guider nos vies, on s'aperçoit que c'est la meilleure vie qu'on pouvait avoir. Fait qu'on va peut-être demander au Seigneur de nous aider dans notre étude ce soir. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ta bonté. Merci pour ton amour pour nous. Merci Seigneur parce que ton désir était de nous sauver et parce que tu ne veux pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. On te remercie Seigneur que tu nous as montré tes voies. On te remercie que tu as un plan pour nos vies. Puis Seigneur, on ne veut pas passer nos vies à s'inquiéter inutilement, mais vraiment se confier en toi comme un enfant sevré auprès de sa mère, qu'on puisse être confiant, Seigneur, dans notre vie pour te laisser agir, te laisser nous façonner et te laisser nous diriger pour qu'on puisse faire ton œuvre jusqu'à ce qu'on soit dans ta présence pour l'éternité. On te remercie, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on voit que le Seigneur fait des promesses. Mais quand le Seigneur fait des promesses ou qu'il y a un plan, il les garde, ses promesses. Puis, comme on a vu dans Éphésiens 2, 10, il a un plan pour chacune de nos vies. Je pense que c'est bon de réaliser ça, que le Seigneur a un plan pour chacune de nos vies. Il nous sauve avec un but, puis il va accomplir son plan dans nos vies. Mais si on s'inquiète, puis on est troublé, des fois, ça nous empêche de vraiment marcher dans ses voies. Puis, okay, ça nous empêche de marcher dans ses voies, puis ça nous donne d'être agité pour rien. Donc, il y a un travail à accomplir en nous, puis il va le terminer, peu importe. Mais la différence, c'est que on va être agité pour rien. Dans Philippiens 1, 6, Paul pouvait dire: Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de question de condition de notre part. Paul dit qu'il était persuadé de ça, que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre, il va la compléter. La différence, c'est que ça peut nous causer bien des ennuis et bien des problèmes si on ne se confie pas entièrement à lui. Si on n'est pas obéissant et confiant, le résultat va être beaucoup d'inquiétudes inutiles, puis même des douleurs qui ne sont pas nécessaires. Donc, c'est toujours mieux de se confier en lui, puis d'être obéissant, puis satisfait dans sa présence. Donc, on va regarder un peu dans la vie de Jacob, comment on peut illustrer cette situation-là par la vie de Jacob. Donc, les choses qu'on va regarder, c'est la promesse que Dieu avait faite en rapport avec la vie de Jacob. Qu'est-ce que Dieu avait décidé? Qu'est-ce qu'il avait planifié pour la vie de Jacob? Mais on va voir aussi, comme deuxième point, comment Jacob pensait qu'il avait besoin d'aider à Dieu pour que les choses marchent. Il voulait faire marcher ça parce qu'il pensait que Dieu avait besoin de lui pour que ça puisse fonctionner. Mais on va voir ensuite que Jacob, il a dû apprendre que Dieu n'avait pas besoin de son aide pour accomplir son but avec lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne participe pas avec le Seigneur, mais ce n'est pas nous autres qui faisons en sorte que ça va fonctionner. C'est le Seigneur qui va le faire. Puis à la fin, on va voir qu'en dépit de toutes les détours, en dépit de toutes les manigances, Dieu, à la fin, arrive à son but pour la vie de Jacob. Donc là, on va regarder premièrement le plan que Dieu avait ou la promesse que Dieu avait faite en rapport avec sa vie. Dans Genèse 25, au verset 23, Dieu en parlant à sa mère, à Rebecca, qui portait les jumeaux, Ésaü et Jacob, elle dit, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc Dieu avait déterminé, Dieu avait un plan pour la vie de Jacob, puis il avait dit que le plus grand serait assujetti au plus petit, puis il y aurait un peuple qui serait plus fort que l'autre. Donc, on sait que avant ça, Isaac priait pour que sa femme, parce qu'elle était stérile, puis il priait pour qu'elle puisse avoir des enfants, qu'elle puisse enfanter. Puis c'est même son père aussi, Abraham, avait aussi prié pour sa femme. Mais Dieu avait fait des promesses à Abraham, mais il y avait. On se demande des fois pourquoi que Dieu, pour faire un peuple innombrable, qui a choisi des gens qui avaient de la difficulté à avoir des enfants. On aurait choisi quelqu'un qui était vraiment fertile, puis d'avoir une vingtaine d'enfants, ça aurait bien commencé. Mais Dieu démontre sa fidélité, démontre sa puissance dans notre faiblesse. Puis c'est important de comprendre ça, comme dans 2 Corinthiens 12, 9, le Seigneur avait dit à Paul, parce qu'il avait donné une écharpe dans la chair, il a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc la puissance de Dieu s'accomplit même à travers la faiblesse de l'homme. Il dit, je me glorifierai donc, Paul dit ça, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Si on regarde à Abraham et à Sarah qui ont eu de la difficulté à avoir des enfants, quand même, c'est l'enfant qui leur est né, il est né hors temps, il est né pas dans la puissance de la chair. Abraham aussi avait voulu, Abraham et Sarah ont voulu arranger pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. On sait que ça a fait une catastrophe quand elle l'a envoyé vers sa servante. Mais Dieu n'avait pas besoin de ça. Dieu était capable d'accomplir son plan, même en dépit du fait qu'Abraham était passé l'âge d'avoir des enfants, Sarah aussi était passé l'âge d'avoir des enfants. Mais Paul, c'est la même chose qu'il dit, la puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Puis c'est pour ça qu'il dit, je vais me glorifier bien plus de mes faiblesses, parce qu'à travers ça, le Seigneur va pouvoir manifester sa puissance sur nous autres. Vous savez, quand Dieu promet quelque chose, personne ne peut empêcher le Seigneur d'accomplir. D'autres, on peut faire des promesses, puis des fois, on est incapable de l'accomplir. Il y avait un frère qui m'avait dit, il était supposé de venir faire de l'évangélisation sur la rue avec moi, mais il est tombé malade. Puis quand je l'ai vu, il m'a dit, garde ma parole, on va le faire. Mais il n'a pas été capable de le faire. Puis il est décédé, puis il est allé avec le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas, il voulait bien. Mais parce qu'il, à cause du fait qu'il est décédé, puis il était malade, il n'a pas pu le faire. Mais pour le Seigneur, personne ne peut empêcher le Seigneur d'accomplir ce qu'il a dit. Non seulement il a la puissance de faire la promesse, mais il a la puissance de l'accomplir aussi. Dans Romains 11, 29, il nous dit, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc, les bénédictions de Dieu qui descendent d'Abraham, ici, Dieu avait dit que ça allait aller au plus jeune, c'est-à-dire à Jacob, au lieu d'Ésaü. Puis si Dieu l'a dit, là, la foi, c'est la foi quand on parle de la foi peut se reposer sur la parole de Dieu. La foi, ce n'est pas de dicter à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire, mais la foi, c'est de se reposer sur ce que lui a dit qu'il allait accomplir. C'est ça que Jacob aurait eu tout intérêt à s'appuyer sur ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit à Jacob, il avait dit à Rebecca que le plus grand serait assujetti au plus petit. Donc c'était celui qui était né en deuxième, c'est-à-dire Jacob. Maintenant, regardez, Jacob, lui, il pensait qu'il devait aider à Dieu pour que ça puisse s'accomplir. C'est ça qui va causer ses problèmes dans sa vie. C'est qu'il pense qu'il a besoin d'aider à Dieu pour que ça puisse s'accomplir comme Dieu l'a dit. Puis, toujours en rapport avec notre vie à nous autres, le Seigneur, il y a un but pour notre vie, il y a un plan pour notre vie. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se soumettre à lui, puis de le laisser agir. Quand on est obéissant, le Seigneur va arriver à son but. Puis si on est désobéissant, bien, ça va nous causer des problèmes, des inquiétudes inutiles. Donc, Jacob, sûrement que sa mère lui avait dit ça, mais il va utiliser la contrainte pour acheter la bénédiction d'Ésaü. On connaît l'histoire. Ésaü, lui, ces choses-là, il était profane, Ésaü. Il était quelqu'un qui n'était pas plus intéressé que ça aux choses spirituelles, les choses que Dieu avait dit. Lui, mais dans un sens, Ésaü, lui, étant le premier-né, ben, c'était comme si il voyait que c'était une chose due, puis il n'avait pas besoin de s'inquiéter, ça lui revenait, mais ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est qu'on ne mérite pas que Dieu va le faire. Mais lui, c'est comme si Dieu était obligé de lui donner le droit d'aînesse, puis il ne s'inquiétait pas plus que ça n'avait pas une si grande valeur que ça pour lui de recevoir la bénédiction. Parce que il a jugé que c'est satisfaire ses désirs immédiats. Les désirs de sa chair étaient plus importants qu'une bénédiction qui était à long terme, qui avait rapporté quelque chose à long terme. Donc, il revient des champs, puis il avait faim. Donc, il voit Jacob qui est en train de faire un potage de lentilles. Puis, il lui demande, il dit, donne-moi de ce potage-là. Il avait faim. Puis Jacob, lui, saute sur l'occasion, parce qu'il se dit, OK, ouais, mais il dit, OK, je peux t'en donner, mais vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Puis Ésaü, lui, il ne trouvait pas ça si important que ça. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça me donne? Je vais mourir de faim. Ça fait il a autant vendre son droit d'aînesse pour un potage de lentilles pour satisfaire son besoin immédiat. Il voyait pas ça important. C'est remarquable que Jacob, il dit, jure-le-moi d'abord. Il dit à Ésaü, jure-moi que tu vas me donner ton droit d'aînesse. C'est comme si, est-ce que la promesse d'Ésaü va être plus grande que la promesse de Dieu, que la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu avait dit? Puis Ésaü, dans un sens, il veut que. Puis Jacob, c'est quelqu'un qui manigançait, qui n'était pas toujours vrai. Donc, il veut que Ésaü lui jure qu'il va lui donner son droit d'aînesse. Jure-le-moi d'abord. Donc, celui qui n'est pas honnête demande un serment. C'est comme ça, il y a des gens qui disent, oh, je te le jure. C'est parce que les autres, ils ne disent pas la vérité, mais ils ont plus la réputation de dire la vérité. Quelqu'un qui dit toujours la vérité, il n'a pas besoin de jurer. Il a juste à dire, puis les gens savent que ils comptent pas de mentir. Sa réputation est plus grande, est plus forte que de dire, je te jure. Mais c'est ça que Jacob il voulait. Il voulait que Ésaü lui jure de lui donner, avant qu'il lui donne le potage de lentilles, il voulait que Ésaü lui jure qu'il allait lui donner son droit d'aînesse. Donc, c'est ça. Est-ce que le serment, est-ce qu'il pourrait se fier plus au serment d'Ésaü qu'à la parole de Dieu? Mais même sa mère, Rebecca, elle croit qu'elle doit s'impliquer elle aussi. Elle avait reçu la parole de Dieu pendant qu'elle était enceinte. Dieu lui avait dit ces choses-là, mais elle aussi, on voit que Jacob, est, comme ma mère disait des fois, c'est pas les enfants du voisin. Donc, on a les particularités, on a les mêmes choses que nos parents, on apprend de nos parents. Mais elle pensait qu'elle doit s'impliquer. Puis, mais elle aussi était la sœur de Laban. Ce qu'on voit, dans toute la famille, là, il y avait de la manigance, puis on arrangeait les choses pour que ça fonctionne selon ce que nous autres, on croyait. Mais elle est la sœur de Laban. Puis, ensemble, elle et Jacob, ils vont tromper Isaac. On sait l'histoire. Isaac avait demandé à Ésaü d'aller lui trouver du gibier, préparer un mec comme il l'aimait. Puis ensuite de ça, il allait bénir Isaac. Je crois que Isaac devait savoir sûrement que Rebecca avait partagé avec lui la parole du Seigneur qui avait dit que le plus grand serait, pardon, assujetti au plus petit. Mais Isaac, lui, il aimait Ésaü. Puis là, il a dit, va me préparer un mec comme je l'aime. Puis là, je vais te bénir, je vais te donner la bénédiction à toi. Elle, Rebecca, a dit à Jacob, pendant qu'Ésaü était parti chercher du gibier, elle a tué un chevreau, puis elle a même arrangé pour que Isaac soit trompé pour donner la bénédiction à Jacob au lieu de la donner à Ésaü. Isaac, on voit que sa vue était affaiblie, mais il a marché par les sens aussi. Il voyait pas bien. Il a entendu, il dit la voix, c'est la voix de Jacob. Mais il l'a touché, il a dit, il l'a senti. Donc, il marchait par ses sens-là. Les sens peuvent nous tromper souvent, puis il a été trompé par ses sens parce qu'il avait entendu, il a vu, il a senti, il a touché, mais il s'est trompé parce que ce n'était pas Ésaü, c'était Jacob qui était là. Puis éventuellement, ben, il l'a béni. Il l'a béni. Mais vous savez, quand on regarde la situation, c'était près que la bénédiction aille à Ésaü au lieu de Jacob. Puis eux, ils n'ont pas pu s'attendre que Dieu fasse quelque chose. C'est certain que Dieu aurait fait quelque chose. C'est certain que Dieu aurait empêché que la bénédiction aille à Ésaü parce qu'il avait dit que ce serait le plus grand serait assujetti au plus petit. Mais eux, ils ont rendu à l'extrémité d'eux-mêmes, ils ont cru qu'ils devaient agir parce que là, c'était sur le bord de se faire. Là. En dépit que Ésaü avait vendu la bénédiction à Jacob, puis que Rebecca savait qu'elle devait aller à Jacob, ils ont cru qu'ils devaient agir, qu'ils devaient s'impliquer, qu'ils devaient aider à Dieu pour que la bénédiction puisse aller au bon endroit. Mais Dieu est à l'extrémité, mais c'est pour mettre à l'épreuve notre foi. Est-ce qu'on va être capable de s'attendre à lui? Est-ce qu'on va être capable de rester, de ne pas intervenir, mais de le laisser agir? Vous savez, quand on le laisse agir, ça nous encourage, ça nous démontre la réalité de Dieu, ça nous démontre qu'il est digne de notre foi, qu'on peut toujours s'attendre à lui. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Puis c'est certain que Isaac n'aurait pas pu bénir Ésaü à la place de Jacob, parce que Dieu l'avait dit. Mais quand il a été trompé, Isaac a reconnu que la volonté de Dieu, c'était bien ça, qu'elle devait s'accomplir. C'est pour ça que quand Ésaü est arrivé, puis qu'il a demandé avec des cris, avec des larmes, il a demandé la bénédiction, ben, dans Genèse 27, 33, il dit, Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? et j'ai mangé de tout avant que tu viennes. Je l'ai béni. Puis il conclut en disant, aussi sera-t-il béni. Donc, Jacob, Isaac reconnaît que c'est la main de Dieu qui agit, puis que la bénédiction est allée à la bonne personne, c'est-à-dire à Jacob. Mais d'un côté, s'il avait attendu, je suis certain que Dieu aurait agité, il aurait agi pour que ça aille à Jacob au lieu de Ésaü. Mais ils ont manqué de voir la main de Dieu agir sur ce que lui avait dit. Donc, le résultat de tout ça, vu que c'est eux autres qui se sont impliqués, qui ont voulu changer la circonstance pour que ça puisse fonctionner comme Dieu avait dit, mais ça a fait en sorte que Ésaü était fâché. Puis, il voulait tuer Jacob. Fait que là, ça a causé du trouble dans la famille. Lui, il voulait tuer Jacob. Puis, Rebecca, là, encore là, elle a encore utilisé la tromperie pour sauver son fils. Elle voulait pas qu'Ésaü tue Jacob, puis qu'elle soit privée, là, il aurait été un meurtrier. C'est que dans Genèse 27, verset 41, 47, elle dit à Jacob d'aller chez Laban, jusqu'à ce que la colère d'Ésaü passe, puis elle le rappellerait au temps favorable. Fait que là, ça va causer que Jacob s'en va. Dans la famille, il s'éloigne de la famille pour être épargné afin que Ésaü ne tue pas Jacob. Elle dit, je vais te rappeler dans un moment favorable. Quand la situation va être rétablie, qu'elle allait le rappeler, mais en autant qu'on sait, dans la parole de Dieu, elle n'a jamais revu Ésaü, Jacob, c'est-à-dire, parce que quand il est revenu, il n'était plus question de sa mère. Et OK, il a rencontré son père, mais on ne voit pas dans la parole qui a vu sa mère était probablement morte avant qu'il revienne. Mais même pour pouvoir arriver à ses fins, on voit que Rebecca pense encore qu'elle doit user de tromperie. Puis dans le verset 46 de Genèse 27, elle dit, Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Mais ce n'est pas vraiment ça, la réalité. Pourquoi qu'elle n'a pas dit, on dirait que des fois, quand on compte des menteries, c'est dur quand on est habitué de tromper, c'est dur de dire la vérité. Pourquoi qu'elle n'a pas dit à Isaac, regarde, là, Ésaü veut tuer Jacob, et que peut-être qu'on devrait l'envoyer ou régler la situation, mais elle pense, elle, que c'est la façon de régler la situation, c'est de l'envoyer chez Laban. Et ça va causer bien des problèmes de l'envoyer chez Laban. Jacob, il va passer 20 ans chez Laban, qui va pas être quelque chose de bien bon, là. Mais pourquoi qu'elle n'a pas exprimé à son mari de dire, regarde, c'est ça la situation. Elle utilise une autre situation pour dire qu'on ne veut pas qu'il se marie avec des filles de Heth comme Ésaü avait fait. Fait qu'elle l'a envoyé chez Laban. Mais comme j'ai dit, je ne crois pas qu'elle a revu Jacob. Elle ne voulait pas en être privée, mais elle a été privée à cause de ses manigances. Donc, on pense à toutes les difficultés maintenant que lui va rencontrer à cause de cela, Jacob. Donc là, il s'en va vers Laban. Laban, c'était le frère de sa mère. Puis, dans toute la famille, les autres étaient habitués de fonctionner comme ça. Puis, Laban, Jacob va goûter un peu de sa propre médecine. Lui a trompé. Son nom, c'était ça. C'était Jacob, ça veut dire un supplanteur ou quelqu'un qui manigance. Mais là, il va rencontrer, comme on dit, chaussure à son pied. Là, il va rencontrer chez Laban quelqu'un qui va agir de la même façon que lui et sa mère ont agi. Il va voir ces choses-là. Laban était comme eux. Donc, on voit premièrement que là, Jacob va travailler pour Laban, son oncle, puis il va travailler 7 ans pour Rachel. Mais après, quand il va voir que Laban va, au lieu de lui donner Rachel, il va lui donner Léa. Donc, il va le tromper, lui aussi, pour les 7 ans de travail qu'il va avoir fait pour Rachel. Finalement, c'est Léa qui a. Puis après ça, ben, il va lui dire probablement qu'il voulait avoir ses services encore pour plus longtemps. Fait que là, il voulait, il a dit qu'il allait travailler encore 7 ans pour Rachel. Mais non seulement ça, okay, là, il y a eu les deux pour 14 ans de service. Il y a eu Léa et il y a eu Rachel aussi. Mais après ça, il fait travailler pour un salaire pendant 6 ans. Il va travailler pour là-bas. Mais là-bas, il va changer son salaire constamment. On va aller dans Genèse 30. Dans Genèse 30, on va voir comment est-ce que là-bas va le. Il va l'utiliser en changeant son salaire. On va dire aussi dans Genèse 30, au verset 32 à 36. OK, 32 à 36. Il dit ici, il dit, je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, c'est Jacob qui parle là-bas. Il dit, mets à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté. Et tout agneau noir parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et acheté sera mon salaire. Donc, il travaille, là-bas, il avait dit, tu ne travailleras pas pour moi pour rien. C'est quoi qui va être ton salaire? Mais il dit, tu n'auras pas besoin de me payer rien si tu consens à ce que je vais te proposer. Fait que tout ce qui est dans ton troupeau, là, tout ce qui est acheté, marqueté, et ça va être mon salaire. Puis, regardez ce qu'il dit au verset 32. Il dit, ma droiture. Quelle droiture? Il dit, ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres, noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Puis là, Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. C'est une question de faire des promesses ou de jurer, mais c'est entre les deux, ces deux manigances, ces deux gens qu'on ne peut pas se fier à leur parole. Regardez au verset 34, et Laban dit, eh bien qu'il en soit selon ta parole, ce même jour, il mit à part les boucs rayés. Puis il, ici, là, c'est Laban. Il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, où tout ce qui avait été noir parmi les brebis, il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob, et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Donc, on voit qu'il. Il trompe, là, parce qu'il était d'accord, il dit ce qui va être marqueté, tacheté, puis ce qui va être noir, ça va être ton salaire. Il les enlève du troupeau, puis il les envoie avec ses fils, puis il les éloigne pour pas le donner à Jacob. Fait que là, il trompe Jacob pour pas lui donner le salaire qui lui revient. Et vous savez, Jacob, lui, il croit, Jacob, il sait jouer ce jeu-là aussi. Là. Fait qu'on va au verset 37 à 43, et Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane, et il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Puis Jacob, il croyait vraiment que c'est ça qui arrivait, là. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau et de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que des brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point de sorte que les chétives étaient pour Laban. Et les vigoureuses pour Jacob. Jacob, il pensait bien là, que c'est lui qui manigançait, c'est lui qui arrangeait ça, puis il prenait le troupeau de là-bas. Mais il va voir, il va apprendre d'autres choses plus tard. Puis au verset 43, il dit, cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Il pensait vraiment que c'est lui qui avait arrangé ça pour que ça fonctionne là, avec les branches qui pelaient devant les auges pour que les brebis qui étaient en chaleur et ceux qui étaient vigoureuses, ils puissent apporter son troupeau, là. Mais il s'est rendu compte que ce n'est pas lui qui a arrangé ça. Mais à son insu, c'est Dieu qui avait arrangé les choses. Si on lit dans chapitre 31, au verset 7 à 12, dans chapitre 31, là, il dit à ses femmes, il dit, et votre père s'est joué de moi. Il a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Et vous, il a compris ça, Dieu l'a fait comprendre. C'est pas toi qui as fait ça, c'est moi qui ai fait ça pour toi. Puis il dit, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce qui te fait, tout ce que te fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel où tu as oué un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Donc là, le Seigneur lui a montré que, regarde Jacob, c'est pas toi qui, avec tes branches, hein, c'est pas toi qui as fait ça. C'est vraiment moi qui j'ai vu ce que tu as fait là-bas. Puis le Seigneur est capable de contrôler les animaux. Puis il contrôlait pour que ceux qui montaient les brebis, c'était des rayés, tachetés, pour que le troupeau de là-bas qu'il puisse revenir à Jacob. Là, Jacob commence à voir que c'est lui qui faisait ces choses. Ce n'est pas Jacob avec ses manigances, mais Dieu était capable de s'occuper de la situation pour arranger les choses. Donc Jacob, on arrive au troisième point, Jacob doit apprendre que Dieu n'a pas besoin de lui pour accomplir son plan. Là, il arrive, Jacob va arriver dans une autre situation vers la fin de sa vie. Il va arriver dans une autre situation parce que là, c'est avec Joseph. Puis ça va être une situation qui sera... Jacob ne pourra plus manigancer. C'est une situation qui va être complètement en dehors de ses possibilités de pouvoir arranger les choses pour que ça fonctionne. Jacob avait eu l'intelligence spirituelle de savoir, comme on a vu les semaines précédentes, Jacob avait eu l'intelligence spirituelle de savoir que la bénédiction devait aller à Joseph. Donc c'était un bon choix, c'était le choix de Dieu, que Dieu voulait que ça passe par Joseph. Puis lui, mais il va apprendre plusieurs leçons parce que là, il va perdre le contrôle de la situation complètement. On a vu les autres semaines que les frères de Joseph ils ont fait passer que Joseph était mort, qu'une bête l'avait déchiré, puis ils ont ramené la tunique de plusieurs couleurs à Jacob et dit, juste si c'est la tunique de ton fils. Puis, mais dans la pensée de Jacob, Joseph était mort, une bête l'avait déchiré. Donc là, qu'est-ce qui se passe là? Il avait vu que la bénédiction devait aller à Joseph, mais là, Joseph est mort. Fait que là, c'est impossible. Jacob ne peut pas manigancer dans cette situation-là pour arranger que ça fonctionne. Joseph n'est plus. Fait que comment est-ce que ça va arriver? Mais Dieu va lui démontrer sa puissance parce que ça va marcher comme Dieu a dit encore. Donc, la bénédiction va par la puissance de Dieu. Pas par Jacob n'a pas pu rien faire dans cette situation-là pour s'arranger que ça fonctionne. Mais par la puissance de Dieu, la bénédiction va passer à Joseph. Mais quand on a regardé Joseph les autres semaines, c'est remarquable que ce trait de caractère-là qu'on a vu dans Rebecca, dans Laban, son frère, dans Jacob, de toujours essayer de manigancer et de faire en sorte que les choses fonctionnent selon ce que Dieu avait dit, Joseph n'est pas comme ça, lui. C'est quelque chose qu'on voit dans Joseph, on ne voit pas que lui essaie d'arranger les choses. Joseph, il se soumet à ce que Dieu fait. Il est vendu comme esclave en Égypte, mais il avait reçu Joseph, en songe, que Dieu allait le mettre au-dessus de ses frères, qu'il allait dominer sur ses frères, parce que les gerbes qui se prosternaient devant lui, la lune, le soleil, les 11 étoiles, il avait eu ces songes-là. Joseph savait que ces choses-là allaient arriver, mais là, les circonstances sont complètement contraires. Joseph est séparé de sa famille, il est vendu en Égypte. Puis il devient un esclave. Mais Joseph, on voit dans Joseph une patience qui s'attend de Dieu. Parce que Dieu a promis, Dieu va accomplir. C'est vraiment, puis éventuellement, ça va arriver comme Dieu a dit que ça allait arriver. Mais Joseph, il n'est pas comme Jacob, il n'essaie pas d'arranger les choses. C'est le Seigneur qui arrange les choses pour Joseph. Parce que, on sait qu'étant... Joseph a fallu qu'il passe par la prison. Ça ne regardait pas bien. est passé par la prison, mais il fallait qu'il passe par la prison pour que Dieu puisse l'emmener sur le trône d'Égypte. On sait que Adam, ça nous fait penser au Seigneur Jésus, qui, lui, a été rejeté par ses frères, puis qui était obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Mais Dieu l'a souverainement aimé, puis il a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, Joseph, il s'attend à Dieu. Puis, ça va arriver comme Dieu a dit, éventuellement, en dépit du fait que ça ne ressemblait pas comme s'il s'en allait vers ce résultat-là. Mais Dieu, lui, a fait en sorte que ça a fonctionné. Sans l'aide de Joseph, sans l'aide de Jacob, Dieu a fait en sorte que Joseph s'est retrouvé sur le trône de l'Égypte. Puis, éventuellement, ses frères sont venus se prosterner devant lui. Donc, Jacob, il s'adresse à Joseph à la fin. Des fois, ça nous prend du temps avant d'apprendre nos leçons. Mais Jacob a fini par l'apprendre. Il a fini par comprendre à la fin de sa vie que c'était Dieu qui arrangeait les choses. C'est Dieu qui faisait en sorte que ça fonctionnait. Puis, dans Genèse 48, quand il a fait son adresse à Joseph à la fin de sa vie, quand il a transmis la bénédiction aux enfants de Joseph, il a dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, donc il voyait la direction de Dieu dans sa vie depuis le jour où il existait, il dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse les enfants. Et vous, là, Jacob, il arrive à la situation, là. C'est ça que lui avait vu, non seulement de transmettre la bénédiction à Joseph, mais en plus de ça, il la transmet à ses enfants. Il dit, je ne pensais plus jamais te revoir, puis Dieu me permet de te revoir, mais non seulement juste de te revoir, mais de voir la postérité de Joseph, puis de transmettre aux enfants la bénédiction que Dieu avait. Donc, le plan de Dieu s'accomplit. On voit tout, si on regarde toute la vie de Jacob, combien de difficultés, combien de problèmes qu'il aurait pu s'épargner s'il avait laissé le Seigneur faire en sorte que ce qu'il avait promis, il allait l'accomplir. Mais à cause de ses manigances, à cause des manigances de sa mère aussi, puis de Laban, ça a été toute une vie. On pense à sa vie, comment sa vie a été difficile. Mais le plan de Dieu s'accomplit quand même. C'est juste qu'il sait, au lieu de, quand il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières, des supplications et avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ça qu'il n'a pas pu expérimenter, sauf à la fin de sa vie. Donc, Jacob devient ce qu'il devait être. La bénédiction suit la bonne lignée, en dépit de sa réponse à Pharaon, parce que quand Pharaon lui a demandé quel était le nombre des jours, des années de sa vie, Jacob a répondu dans Genèse 47,9, Jacob répondit à Pharaon, les jours, des années de ma vie errante sont de 130 ans. Les jours, des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Voyez-vous, c'est le constat de sa vie, là. Même s'il a vécu 130 ans, là, il dit que les jours ont été mauvais. Ils ont été peu nombreux et mauvais. Mais Dieu a atteint, quand même, Dieu a fini par atteindre son but dans la vie de Jacob. C'était quoi son but? Ben, finalement, Jacob a fini comme un adorateur et il a vu la bénédiction qui a suivi la bonne lignée. Il a adoré, puis en reconnaissant sa faiblesse. Il nous dit dans Hébreux 11, 21, il dit, c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Et oui, il a vu la fidélité de Dieu. La promesse a été, la bénédiction est allée au bon endroit, en dépit quand Jacob pensait que c'était terminé, que c'était impossible que ça puisse se faire parce que Joseph était mort. Mais Dieu, dans une préfiguration, c'est comme s'il l'avait ramené des morts, mais et aussi, il a pu bénir les fils de Joseph, puis en adorant, il était sur son lit de mort, parce qu'après, il a retiré ses pieds dans le lit, puis il a expiré. Mais il a adoré appuyer sur l'extrémité de son bâton. Et tout ce qu'on voit là-dedans, la bénédiction suit la bonne lignée, il adore. C'est ça qu'on voit. Quand on voit que Dieu accomplit son plan, ça nous amène à l'adoration, puis et tout en reconnaissant sa faiblesse. Donc, c'est toute une leçon pour Jacob qu'il peut apprendre ici de la part du Seigneur. Ça lui a pris du temps d'apprendre sa leçon, mais quand même, Dieu a fini par accomplir le but dans la vie de Jacob. Dans Genèse 32, verset 31, il dit: Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la honte. C'est pour ça qu'il avait un bâton. C'est ça qu'il a reconnu sur son lit de mort. Il a reconnu que Dieu avait accompli son but, puis il voyait sa faiblesse à lui. C'était pas lui qui avait toute magnanimité. C'était pas les résultats de ses manigances qui ont fait en sorte que le but de Dieu était accompli. C'était vraiment la puissance de Dieu qui avait accompli ce qui nous porte à adorer. Donc, on a besoin d'apprendre, nous autres, les mêmes leçons. Puis, il faut être tranquille, confiant dans nos circonstances. C'est sûr qu'on pense à Jacob, puis on se dit, ouais, ben, il était pas. On peut juger Jacob, mais nous autres aussi, on pense des circonstances. Puis, souvent, nos circonstances nous amènent à penser que, comme si Dieu n'était plus au contrôle, que si on ne fait pas quelque chose, ça ne va pas marcher. Mais on peut se reposer sur ce que Dieu a dit. Comme il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Paul pouvait dire, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, c'est quoi la leçon là-dedans? Ben, c'est quand on est dans des circonstances, au lieu de prendre les choses en main, c'est de plutôt s'appuyer sur le Seigneur, de faire connaître nos besoins par la prière. Et vous savez, des fois, on a besoin dans la supplication. Des fois, nos prières, là, on va jusque dans la supplication. C'est tellement intense, c'est tellement sérieux qu'on en vient à supplier le Seigneur. Pas que le Seigneur a besoin d'être supplié pour nous bénir, mais c'est nous autres, dans notre extrémité, au lieu de prendre les choses en main, on va dans la supplication. Mais vous savez, nos prières, ils finissent comment? Avec des actions de grâce. Mais quand est-ce qu'on peut rendre grâce? Quand la réponse est arrivée? Non. Quand on sait que Dieu a entendu nos prières. Quand on sait qu'il a entendu nos prières, on n'a peut-être pas vu la réponse encore, mais on sait que Dieu a entendu nos prières. Puis l'action de grâce, c'est la foi. De remercier, sachant que Dieu va faire ce qu'il a promis. Donc, puis quand on rend grâce, c'est comme si on est, comme Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, parce que lui-même prend soin de vous. C'est-à-dire que quand on s'est déchargé de nos fardeaux sur lui, on a fait connaître nos besoins par des prières, des supplications, mais là, on peut rendre grâce parce que le Seigneur va accomplir ce qu'il a dit. Puis qu'est-ce que ça va donner comme résultat, ça? Bien, on va expérimenter la paix de Dieu dans nos problèmes, dans nos situations. Même s'ils ne sont pas encore résolus, on va pouvoir être en paix. Puis si on est en paix, on va avoir tout le loisir de garder nos pensées et nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, puis de laisser lui accomplir son dessein pour nous. Puis dans notre faiblesse, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va adorer. On va être en paix, on va adorer le Seigneur. C'est ça qui est le but dans nos vies, c'est qu'on puisse l'adorer en se fiant complètement en lui. Dans le psaume 131, il dit: Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. C'est quand c'est trop élevé, on laisse ça dans les mains du Seigneur. Les choses trop grandes, on laisse ça dans les mains du Seigneur. Il dit: Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est près de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Puis après ça, il dit: Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. C'est ça vraiment la vie chrétienne, c'est de se reposer sur lui, de laisser lui. Il a un plan pour notre vie, il va l'accomplir. Il n'y a pas besoin que nous autres, on arrange les choses pour que ça fonctionne, mais au lieu de s'inquiéter, ce qu'on peut faire, c'est de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, en ayant la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc, c'est une leçon pour nous autres. Jacob, ça y a pris 130 ans pour, presque 130 ans pour apprendre ces choses-là. Mais plus vite on va les apprendre, mieux ça va être, et plus on va pouvoir jouir de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Fait que le Seigneur puisse bénir ses paroles dans nos cœurs pour nous encourager, nous aussi, même si c'est arrivé à Jacob dans ce temps-là. Ça veut dire que nous autres, c'est la même chose pour nous autres, rendu au temps où on est, là. Ces gens-là, c'était des gens pareils comme nous autres, avec les mêmes passions, les mêmes désirs, les mêmes inquiétudes, mais on peut apprendre de leurs leçons. Fait que je m'arrête là, puis je vous laisse des commentaires ou des questions. On pourra regarder ça ensemble avant de terminer par la prière.
Peut-être une chose, Gérald, qu'on peut remarquer, c'est dans l'histoire, Jacob luttait avec l'ange de l'Éternel. Puis il tenait mordicus à la bénédiction de Dieu, même s'il utilisait de stratagèmes. Et le Seigneur l'a conditionné en déboîtant sa hanche, de telle façon que Jacob pouvait plus se fier sur sa force pour manigancer, mais il y avait un son bâton. Puis, tu vois le bâton comme étant le Seigneur qui est là, puis il s'appuie sur le bâton pour sa force. Puis tous les autres événements qui arrivent, comme la rencontre de son frère, la perte de Joseph, c'est hors de son contrôle.
Exactement.
Puis c'est le Seigneur qui continue d'agir avec lui. C'est pour ça qu'à la fin, je trouve l'image touchante, mais en même temps intrigante, que Jacob il finit sa vie en adorant, appuyé sur son bâton. C'est comme si c'était le Seigneur. À la fin, il comprend vraiment le plan du Seigneur à la fin. Et je trouve ça curieux que Hébreu le mentionne, donc c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il y a eu comme la révélation, parce que elle n'est pas nulle part, cette révélation-là. Elle est dans Hébreux simplement, fait que c'est là qu'on voit que les Écritures sont inspirées, puis ils peuvent avoir. Il y a des liens qui se font des fois avec des psaumes que on n'aurait jamais pensé que le lien pouvait se faire. Mais le Seigneur le fait par la bouche des apôtres, par la révélation.
Exactement.
Voilà.
Mais quelqu'un a dit que si le Seigneur avait regardé à nos fautes, le chapitre 11 d'Hébreux, il ne serait pas là. En dépit de nos erreurs, le Seigneur a pu faire quelque chose de bien, puis nous mentionner dans la liste des héros de la foi.
Je pensais à Samuel. C'est lui qui devait offrir le sacrifice à un moment donné. Et puis le roi Saül, il était empressé parce que l'ennemi était aux portes. Hein? Et puis le prophète retardait. Alors, ça va un peu dans le même sens. Alors, le
Exactement.
roi, il n'avait pas l'autorité de faire le sacrifice, mais il a fait le sacrifice, mais ça l'a déplu à Dieu. Ça a fait en sorte qu'il a perdu sa royauté. Hein?
Il a manifesté qu'il n'avait pas la foi. Il n'était pas capable de s'attendre à Dieu.
Pense aussi, quand Dieu a fait la promesse concernant Agar, sa descendance, je vérifiais dernièrement. Il y a environ 16 millions de Juifs dans le monde. Il y en aurait 7 millions en Israël, 8 millions aux États-Unis, puis 1 million éparpillés un peu partout dans le monde. Et puis les Arabes, ils sont 450 millions. Ça, c'est un peuple qui est ennemi d'Israël. C'est pour dire, hein? Ça fait réfléchir aussi.
Mais en dépit de ça, Dieu garde son peuple parce qu'il y a des promesses, puis il va accomplir ses promesses, les prophéties les concernent. Puis il permettra pas que l'ennemi détruise son peuple.
Merci Gérald, merci Richard aussi.
Moi, j'aurais une présentation à faire.
Okay.
D'habitude, c'est Lévi qui fait les présentations, mais là, j'en ai une ce soir. Il y a Jean et Ruth Husson qui sont avec nous ce soir.
OK.
Donc, on veut leur souhaiter la bienvenue.
Ben oui.
Jean et Ruth Husson, ils demeurent justement à Lévis,
OK.
dans
Bienvenue.
la rive sud de Québec. Ouais. Et puis j'aurais un verset aussi à partager qui résume un peu, je pense, ce qu'on a vu ce soir. C'est un autre verset dans les Proverbes. C'est Proverbe 19, verset 21, qui dit, on connaît tous, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, comme ça s'est accompli dans la vie de Jacob.
Ces choses-là ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Fait qu'on tire des leçons de la vie de ces gens-là. Le Seigneur a permis qu'ils soient racontés, puis les détails qui sont racontés sont pour notre instruction.
Oui, je suis d'accord.
Oui.
Je suis en train de passer à 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1, verset 3, c'est marqué comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance, etc. Puis verset 5, c'est marqué à cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, etc. Qu'est-ce que tu penses de ce passage-là?
Oui, c'est ça, c'est que Dieu, oui, il a donné tout. Dieu est suffisant dans notre vie. Il nous a donné, il nous appelle à la sainteté, il nous appelle à la vie, mais il nous a donné tout ce qui contribue. Puis c'est par la connaissance du chemin du Seigneur Jésus. C'est sa gloire, sa vertu il nous a appelés par sa gloire, sa vertu. Il a contribué à tout ce qu'on avait besoin. Comme Paul a dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est quand on va arriver au jour de Jésus-Christ, on va être parfait. Il va avoir atteint son but. Mais la différence, c'est si on ne s'est pas reposé sur lui, si on a voulu prendre les choses en main, on va savoir causer bien des tourments puis bien des problèmes. Donc, on est mieux d'être comme un enfant sevré auprès de sa mère, de s'attendre à lui. Quand on arrive dans des situations incontrôlables, c'est lui est au contrôle. Et même dans le temps qu'on vit aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont troublés par les circonstances. Mais il ne faut pas regarder aux circonstances, il faut regarder au Seigneur. Lui est au contrôle, il a pas perdu le contrôle, puis il ne le perdra pas non plus. La semaine prochaine, je devrais le faire de Moncton, là. Je devrais être rendu à la maison, puis on pourra continuer. Mais le Seigneur a permis que ce soit la réunion qui était ici à la TUC qui a été cancellée, donc on a pu le faire ce soir sur Zoom. Mais c'est ça, le Seigneur voulait lundi prochain. Je devrais être à la maison. Je dois revenir vendredi, la journée de la fête de ma femme. Je remercie le Seigneur pour ça. Puis merci pour vos prières tout au long de mon voyage. Ça va faire un mois que je suis parti là. Je commence à avoir hâte, mais je t'en revenais. Ça se rapproche. Que le Seigneur puisse nous bénir. C'est que s'il n'y a pas d'autres commentaires, on va terminer par un mot de prière. Ceux qui doivent partir pourront partir. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore pour ta parole. Merci Seigneur pour les choses que tu nous apprends, les leçons qu'on a besoin d'apprendre. On te demande Seigneur qu'on puisse les apprendre et se confier entièrement à toi Seigneur. Puis que tu puisses garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je te remercie pour cette paix qui peut nous garder dans n'importe quelle circonstance quand on a confiance, quand on a mis notre foi en toi, Seigneur. Parce que les choses que tu as déclarées, tu vas les accomplir parfaitement. Merci encore une fois, Seigneur, pour ce temps passé ensemble. Merci pour tous ceux qui se joignent. On pense aussi aux nouveaux, comme ceux qui se sont joints ce soir. On te remercie pour leur présence. Puis bénis-nous chacun, Seigneur, dans toutes nos circonstances, afin qu'on puisse demeurer ferme jusqu'au jour où le Seigneur Jésus va nous prendre pour nous emmener dans sa présence. C'est dans son nom précieux qu'on prie. Amen.